Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux d'être avec vous comme tous les week-ends. Le matin, prenez un bon petit déjeuner. Nous sommes là pour vous accompagner, évidemment, vous parler de sport dans la joie, la bonne humeur et un petit peu de baston, évidemment. C'est l'essence même de cette émission. Avec ce matin, Christophe Cessieux, David Douillet, Fred Le Canu, Fred Weiss. Dans quelques instants, le bras de fer des GG, ça tombe bien. Nous avons deux judokas. Les prises de position de Teddy Riner qui ont suscité la polémique. Lui s'estime légitime pour s'exprimer. Notre champion français se met-il en danger? 10h30, la fronde des tennisman qui demande une meilleure répartition des richesses. Les meilleurs joueurs du monde se mobilisent. Ce combat est-il légitime? Nous serons en direct de Monte Carlo avec notre envoyé spécial Eric Salio, car aujourd'hui c'est le grand début de la saison sur terre battue. Et puis 11h, les Marseillais retrouvent le Vélodrome après une semaine de tension et des défaites à répétition. Le Vélodrome va-t-il se retourner contre ses joueurs? Appelez-nous évidemment à partir de 11h, supporters marseillais au 32-16. Notre direct, ça va être Christophe, notre fil rouge tout au long de la journée, c'est le Tour des Flandres. C'est parti depuis Bruges. Kevin Morand, bonjour.
Salut Jean-Christophe, salut les GG8, départ donné il y a quelques instants depuis Bruges sous un magnifique soleil. Il y avait du monde dans les rues de Bruges, mais il fait pas très chaud et puis surtout il y a du vent, ça va peut-être jouer un rôle dans ce 109e Tour des Flandres avec bien sûr en grand favori Mathieu Van Der Poel, le triple vainqueur du Tour des Flandres, dont l'année dernière, également comme son grand concurrent Tadej Pogacar, également favori, et puis d'autres outsiders comme Wout Van Aert. On va suivre ça, 268 km au programme, 16 monts également à escalader, dont la plupart sont pavés. Donc il y aura évidemment des grands rendez-vous comme le vieux Coirmont qui sera à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, qui sera sans doute encore une fois le juge de paix de ce Tour des Flandres. Donc arrivée prévue autour de 16h15-16h30.
Christophe, tu seras là évidemment cet après-midi, tu seras la semaine prochaine en direct de Roubaix pour Paris-Roubaix, la première participation de Pogacar. Ce deuxième acte, on l'attend avec gourmandise, avec impatience.
Ah, mais c'est génial, ce printemps cycliste est exceptionnel. Ces trois grands monuments qui se suivent sans vraiment se ressembler et qui permettent à l'un et à l'autre de montrer toutes leurs qualités.
Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de duel
sur ces monuments. Oui, mais en plus, c'est vrai que depuis quelques temps, Pogacar écrase tellement la concurrence que ça en devenait presque rébarbatif. Mais là, de voir ces deux monstres qui sont vraiment au-dessus du lot se tirer la bourre de la sorte, moi, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai hâte de me mettre devant ma télé. Tu vois vivement que l'émission...
Non, t'es bien avec nous quand même. En tout cas, là pour l'instant, c'est juste le départ. Dans 30 minutes, on reparlera.
Il va rien se passer pendant du Tour des Flandres. Sans borne, t'inquiète.
On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Noël Audet qui a dit un jour, mouton isolé est en danger.
RMC, le bras de fer GG.
Je crois qu'en France, on perd notre temps sur des choses et surtout, on se sert de certaines choses pour mettre la lumière là où il ne faut pas.
Ça suffit de laisser, on va dire, les îles antillaises, les îles, les tom-tom, pommes, tout ce qu'on veut, de côté. Il faut s'occuper des gens, comme il se doit, et arrêter de se foutre d'eux. Je le dis calmement, mais il faut que les gens prennent conscience que même le budget du sport, par rapport à certains ministères, c'est que dalle. C'est 0,2%. Donc ceux qui se permettent de parler sur la toile et de dire machin, si, vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Le voile dans le sport, la crise sociale aux Antilles, le budget des sports. Teddy Riner, vous l'avez entendu, a multiplié les prises de position politique ces dernières semaines. Le champion français, troisième personnalité préférée des Français, premier sportif, s'est justifié cette semaine dans Ouest France. Voici ce qu'il dit. La situation ne me laisse pas le choix. Sur le budget des sports, par exemple, aujourd'hui, je représente quelque chose dans le sport français et moi, je suis un produit du sport français. Et si tu ne parles pas, ça veut dire que tu n'es pas concerné, mais surtout que tu ne penses qu'à toi. Je me dois donc de prendre la parole pour ça, pour ceux qui en ont besoin, pour faire bouger les lignes. C'est aussi mon devoir. Pourquoi maintenant ? Parce que j'ai la carrière, les épaules et peut-être la légitimité pour le faire. Teddy Riner se met-il en danger ? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Christophe Cessieux. Et c'est tout. Attention, mon cher Christophe, tu as du lourd en face de toi. Dans le coin droit.
Mais je vais être d'accord avec eux.
Hein, à l'arrivée?
Au bout du compte, oui.
Ok.
C'est un très bon choix, ça. Mais ça.
Je comprends. Mais tu vas pouvoir t'exprimer, évidemment. Dans le coin droit, la team, non, il ne se met pas en danger. Fred Weiss, donc Fred Le Canu et David Douillet. On vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. C'est du 54-46. 54% oui, il se met en danger. 46% non, il ne se met pas en danger.
D'accord.
Vous allez. Oui, Christophe.
Non. Vas-y, mais on voit là.
J'en vois.
On y va là.
C'est
on
parti,
y va,
on c'est y va. Bon, quoi. Ok, pourquoi il ne se met pas en danger, David Douillet?
Il ne se met pas en danger parce qu'on est en démocratie, parce qu'on a le droit d'avoir une opinion, on a le droit d'avoir de la contradiction, on a le droit d'avoir des idées et on a le droit d'en parler, surtout quand on vous pose des questions. Voilà, il est devant un journaliste qui lui pose des questions, il réagit, il est intelligent, il dit ce qu'il pense, il est libre. Et je vois pas où quelque personne que ce soit, quand elle est médiatique, quand elle exprime une opinion, elle se met en danger.
David, tu vois bien le danger que ça peut susciter quand un champion français, quand un sportif s'exprime et prend position. Tu sais très bien qu'il y a que des coups à prendre quand même. Enfin, t'es pas naïf. Tu le sais,
non,
toi qui as fait de la politique.
Mais les coups, c'est une chose, mais être en danger, je trouve que l'expression se mettre en danger, elle est beaucoup trop forte. Ne plus être aimé par tout le monde, ça je l'entends, je le comprends, et je trouve ça normal. Ça prouve que t'es pas tiède, ça prouve que t'es pas fade, insipide, incolore, inodore. Ça prouve que t'as du relief, ça prouve que tu réfléchis, ça prouve que tu existes.
David,
et c'est toute la richesse de notre pays.
David, tu crois pas que
c'est d'être libre?
Tu crois pas que des garçons. Alors, je vais prendre des exemples historiques, mais des garçons comme Tommy Smith, John Carlos, Mohamed Ali n'ont pas pris de risque lorsqu'ils ont pris position, justement, dans les années 60, les uns en levant le bras, le gant.
Mais le risque de quoi?
De prendre des mauvais coups. Il y en a deux qui se sont fait dégager de leur titre olympique, qui sont tombés très bas. Mohamed Ali a été privé de disputer sa carrière de boxe pendant des années, il a été privé de licence parce qu'il avait milité contre la guerre du Vietnam et contre le fait d'être envoyé là-bas. Donc c'est des gens qui, comme aujourd'hui Teddy Riner, prennent position. Ouais. Mais je trouve que, mais c'est là où je suis d'accord avec tous les autres, c'est que heureusement qu'il y a des gens comme ça qui sont des leaders d'opinion, des leaders de société, et qui aujourd'hui, à l'époque c'était peut-être plus chaud de prendre position. Aujourd'hui Teddy prend des positions, mais qui sont pas aussi franches et aussi qui provoquent autant de réactions que celles de Carlos et Smith à l'époque en 68. Mais heureusement qu'il y a des gens comme ça qui donnent leur avis, parce que ce sont des leaders d'opinion qui emmènent derrière eux des gens. Donc c'est super important. Là où aussi où il prend des risques, et il risque de prendre des mauvais coups, c'est qu'aujourd'hui, il y a ces putains de réseaux sociaux. Et tous ces débiles qui sont derrière et qui, cachés derrière leur anonymat, balancent.
C'est pas grave.
Sauf qu'il y a parmi eux, il y a aussi des dingos. Regarde ce qui s'est passé avec Patty. C'est parti des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu sais pas. Il y a tellement de dingos sur la terre et cachés derrière leur ordinateur dans leur anonymat. Tu sais pas. Ben, voilà.
C'est un autre sujet,
mais c'est un sujet qui touche l'un et l'autre. Donc voilà. Il prend des risques, mais heureusement qu'il y a des gens comme ça qui prennent des risques.
Oui, tu parles d'athlètes qui ont subi des conséquences dans leur carrière, etc. Mais moi, j'ai parlé de pays libres, de pays.
Les États-Unis, c'est un pays libre, sinon.
Mais non, à l'époque, non. Qu'est-ce que tu me racontes?
Mais
à l'époque, je critique pas les États-Unis. On n'est pas là pour parler des États-Unis. Mais en tout cas, tu vas pas me comparer la liberté de la France et la liberté d'expression qu'on a en France avec n'importe quel autre pays dans le monde. Je suis désolé, tu vois. C'est ça dont je parle. Nous sommes dans la France. On a la chance de pouvoir dire ce qu'on veut. Alors on a le droit d'être d'accord, pas d'accord, et c'est ça la richesse d'un pays, c'est dans la diversité d'opinions, la diversité de points de vue. Je t'assure, moi quand j'ai fait de la politique, quand je me suis retrouvé en commission où j'avais sur un sujet un certain nombre d'idées, lorsque j'ai écouté la contradiction de ces idées-là, je suis revenu sur mes positions parce que j'avais pas vu le sujet du même regard, par le même bout de la lorgnette. Et c'est comme ça qu'on on se bonifie et qu'on rend plus intelligent un groupe, un pays, et,
oui,
puis,
oui, oui.
Et puis des bien idées. Sûr,
non, mais ça, que ce soit obligatoire, ça veut pas dire que ce soit pas risqué. Ça n'a aucun rapport. Que ce soit obligatoire, pour moi, je te rejoins, Christophe. C'est hyper important d'avoir des voix qui s'élèvent, des voix qui comptent plus, et pour faire avancer le débat.
Mais souvent, mais... et je te redonne la parole, on se pose la question dans cette émission de savoir si l'engagement des sportifs, c'est une bonne chose. Bien évidemment, sûr, vous êtes tous des sportifs, sûr. Donc vous êtes, pour, non, on va dire... En,
mais pas surtout. Moi, je pense qu'il y a des domaines de compétences.
Attendez, on s'est souvent posé la question, et souvent la société se dit, non, mais attendez,
tout le monde a un avis sur tout. Pourquoi tu poses jamais la question à un acteur ou un chanteur?
La question pourrait se poser pour tous les gens d'influence.
Et tous les gens qui ont opinion sur eux.
Exactement, qui ont une voix qui compte, etc. Mais moi, ça me dérange quand c'est en dehors du cadre. C'est-à-dire qu'en gros, quand on parle des Antilles, c'est un Antilles, je vois pas quel est le problème. Quand on parle de sport, et c'est un spécialiste du sport, je vois pas le problème. Et quand on parle du voile, il connaît un petit peu, parce que lui, par rapport au club dans lequel il agit, il voit ce que ça peut faire par rapport à ça. Moi, tant qu'il est dans ce cadre-là, ça me pose pas de problème. Si on lui pose une question géopolitique, ça me dérangera peut-être un petit peu plus.
Mmh. Mais pourquoi
c'est complètement différent comme prise de position.
Parce qu'il est moins légitime. Un athlète qui voyage dans le monde entier.
Moi, je trouve que la légitimité.
Il voit ce qui se passe dans le monde entier.
Oui, mais t'as du mal à savoir exactement ce qui se passe. T'as pas les compétences. Quand t'as pas les compétences et que tu parles, je trouve que c'est toujours mettre en danger.
Ok, Fred.
Oui, mais t'as un ressenti.
La question, c'est est-ce que Rinner se met en danger? Pour moi, j'ai dit non parce qu'il l'est déjà. Il l'est déjà parce que aujourd'hui, David, t'es dit, c'est devenu un symbole, une icône, et la grande bascule, elle est pour moi lorsqu'il a allumé la flamme des Jeux à Paris. Jusqu'à présent, c'était un immense champion. C'était un champion en plus qu'il a été juste derrière parce qu'il gagne les Jeux par équipe, il fait le truc à la Netflix à la fin, il ramène le point sur le japonais. Bon, voilà, hors du commun. Mais en allumant la flamme aux côtés de Marie-Jo, il bascule dans un symbole, il bascule dans une représentation de la France, dans une représentation du sport, dans une autre dimension.
Donc, forcément,
pour toi,
forcément consensuel, donc.
Non, ce que je veux te dire, c'est qu'il est en danger parce qu'il ne contrôle plus ce que les gens, symboliquement, vont avoir comme représentation de ce qu'il va dire. Il est en danger parce qu'il ne contrôle plus, David. Regarde aujourd'hui, il a dit beaucoup de choses dans l'interview.
Quel est le danger, la
perte de contrôle du truc. Quand tu disais tout à l'heure le point levé, les revendications, elles étaient ciblées sur des thématiques précises d'incarnation. Là, aujourd'hui, il a donné son avis. Comme Teddy l'a toujours donné, c'est quelqu'un de libre, comme l'a dit David, les athlètes sont libres, ils ont le droit de le faire. Là où il est en danger, c'est qu'il ne contrôle plus ce que les gens vont récupérer sur les réseaux sociaux. Ce que les politiques vont récupérer de cette dimension-là, parce qu'il incarne une voix extrêmement puissante et qui est une voix qui est pure. C'est un athlète qui est détourné de toute dimension et politique, entrepreneuriale. Il est pur, il incarne quelque chose de parfait. Et donc, du coup, il va être énormément récupéré derrière. Et c'est là où il est en danger. Regarde les sujets qui ont été abordés, David. Tous les sujets, notamment les Antilles, qui est un sujet légitime pour lui, et on sait que Teddy, c'est quelque chose d'important pour lui. Eh ben, regarde le seul qui était vraiment sorti. C'est pas celui-là. Donc, il ne maîtrise plus la puissance de sa portée, de sa voix. C'est derrière la reprise aujourd'hui qui va le mettre en danger. C'est qu'il ne contrôle plus ce que ça va déclencher comme polémique ou pas. Mais c'est là où il est en danger.
C'est là où j'aimerais que vous soyez précis et vous m'expliquiez les choses. Parce que moi, il n'y a pas de danger.
Non, mais en danger au niveau de son image, de sa notoriété, de ce qu'il veut.
Mais c'est pas grave. Et même du business, tout simplement. Si tu vas plus loin, que t'es juste vénal, il est en danger en termes de business. Parce que quand tu prends position, il y a des marques, il y a des sponsors, il y a des partenaires qui vont pas avoir envie de s'associer à ton image parce que t'as pris des positions. Donc,
je suis d'accord, tu réfléchis avant.
Et regarde, la vraie dimension, là où Fred il a raison, c'est que la vraie dimension d'un champion, c'est la puissance de son image. Là aujourd'hui où Teddy est un symbole et une icône, c'est la puissance de sa parole. Et c'est ça la grande différence. C'est qu'on a basculé d'une image de champion à vraiment ce qu'il est lui. Et là où il a quelque chose d'extraordinaire à vivre, Teddy, là, c'est que David, tu l'as été porte-drapeau. T'as été porte-drapeau, t'as été champion olympique. Teddy, là, il a, sans te manquer de respect, tu le sais très bien, il a encore une dimension, là, d'avoir allumé la flamme sur les seuls jeux de notre vie à Paris. Il est devenu un symbole et une icône. Donc, cette puissance-là, elle est dangereuse. Parce que c'est une déification de l'athlète. Là, t'es dans quelque chose d'extrêmement grand qui peut peut-être lui échapper.
Je suis d'accord. Mais je vous assure que quand j'ai décidé de partir en politique, j'ai réfléchi à tout ça. Je savais pertinemment.
T'allais prendre des coups.
Que j'allais prendre
mais des coups. Mais tu savais qu'il y avait des risques.
Mais bien sûr. Et je savais que, et comme tu le disais, au niveau du business, ça pouvait se passer autrement parce que, évidemment, tu peux pas plaire à tout le monde, que tu marques, tu, tes idées, etc., etc. Mais c'est courageux, je trouve. Et ce que fait Teddy, c'est courageux.
Personne ne dit que c'est pas courageux.
Ah non. Non, mais et je pense que. Mais oui, mais il l'a fait en pleine conscience de tout ça.
Mais si tu penses.
Et donc, à partir du moment. Non, mais laissez-moi
terminer.
C'est-à-dire qu'à partir du moment, où tu as analysé tout ça, où tu te dis bon, voilà, ok, je vais faire ça, je prends une décision de dire, de m'afficher et de parler, eh ben, tu connais, tu sais ce à quoi tu peux t'attendre. Et donc, t'es pas en danger puisque tu l'as anticipé.
Non, parce que ça peut être exponentiel. Je suis pas d'accord avec toi, David. Ça peut être exponentiel. Et Fred le disait tout à l'heure. Il ne maîtrise plus sa parole. Ça peut être repris par n'importe qui. Ça peut être amplifié. En fait, tu peux avoir une idée de ce qui va se passer, mais tu n'as pas la conscience réelle. Et c'est devenu une icône.
Regardez, par rapport à ce qu'il représente, je vais vous donner un exemple.
Tu peux la maîtriser.
Je parle pas du fond du sujet. Je parle juste du sujet. Le port du voile dans le sport. Il donne cette interview à Marion Bartoli et à Benoît Boutron. Il donne son avis. Deux jours plus tard, il se retrouve sur CNews. Maillard Manchipour l'interpelle en lui disant en gros « tais-toi ». Il répond, le ministre de l'Intérieur répond, ça re-répond. Enfin,
c'est là où il est en danger.
Il se met dans une situation, mais il a le droit, et vous avez raison, il est courageux, et s'il le pense, et vu qu'il est légitime,
sa voix porte,
il le fait. Mais force est de constater que parfois, eh bien, ça peut être dommageable pour lui. D'ailleurs, un exemple, Kylian Mbappé, en juillet dernier, lors des législatives, il est avec l'équipe de France pour disputer l'Euro, et voici ce qu'il dit.
On sait que on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays.
Ça a été beaucoup critiqué. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, beaucoup se sont détournés de Kylian Mbappé, le footballeur, pour dire, ok, il est en train de nous dire quoi penser.
C'est un domaine de compétences.
Mais Teddy, là où il se met en danger,
c'est que là, il est à nu, Teddy. C'est son avis à lui. Kylian Mbappé, moi, je suis surpris, c'est de le faire dans le cadre d'un capitana, dans le cadre d'une conférence de presse, et dans le cadre d'une équipe de France. Et tu vois, David, quand tu parlais de politique, là où ça protège quand même la personne, c'est qu'il y a une ligne éditoriale politique. Ou quand t'es dans une entreprise, si tu fais du business, il y a une ligne éditoriale derrière laquelle tu peux te rattacher pour expliquer ton propos et pourquoi t'es dans cette dimension-là. Là, t'es dit, il est à nu, c'est son avis. Et comme je te dis, il maîtrise pas peut-être les retombées. Et tu vois, moi, où je suis extrêmement choqué et je trouve Teddy très courageux, c'est qu'il a donné son avis. Mais derrière, c'est plus un avis. En fait, derrière, ça devient une revendication pour les gens. Mais au départ, c'était juste son avis. Et aujourd'hui, c'est ça la grande difficulté. Et le fait qu'il le fait à nu comme ça, c'est ce qui le met en danger pour moi.
Mais ça le met en danger, mais c'est ce qui le rend encore plus fort pour moi.
Parce qu'il va s'en sortir, non seulement il va s'en sortir, mais en plus il va rancher les opinions.
Tu ne peux pas reprocher les sportifs qui n'affichent pas leurs opinions. Tu t'en plains tout le temps. Donc à un moment, tu peux pas dire. On n'est pas content que les sportifs prennent pas position quand il y a des faits de société et quand ils prennent.
Ce qui est courageux, c'est de parler en son nom là. C'est ce que je voulais dire, de se mettre à nu en son nom là et pas de détourner une conférence de presse d'un capitana d'équipe de France où c'est pas le sujet.
C'est juste ridicule de faire pendant une conférence de presse.
Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai jamais compris cette possibilité là de détourner. Et là, t'es dit les courageux.
Après, les mecs sont interrogés, t'as des journalistes qui leur mettent la pression, une question, deux questions, trois questions. Au bout d'un moment, tu te sens.
C'est même pas du courage. Quand t'es un grand champion, tu es habitué au danger. Pourquoi t'es habitué au danger? Parce que t'es champion du monde, tu remets ton titre en jeu. C'est-à-dire que le lendemain où t'as gagné ton championnat du monde, t'es plus rien. Et tu redémarres de zéro. T'es en danger tout le temps. Et tu vas rechercher le titre. Tu vas rechercher le titre olympique. Tu vas
te remettre en danger.
Tu vois, David, c'est
un profil... Non, ce que je veux dire, c'est un profil psychologique. C'est-à-dire que le danger, ça fait pas peur. Le danger, c'est normal. Le danger, ça fait partie de la construction d'un grand athlète. Voilà, point barre. Donc le danger, c'est pas quelque chose de rédhibitoire. C'est quelque chose qui fait partie de son ADN. C'est normal. Et donc quand il s'agit de prendre la parole sur un sujet, quand on lui pose une question, oui, ok, il donne son avis, mais au regard de remettre un titre en jeu, bon, excusez-moi, mais c'est plus dangereux de remettre son titre que de donner son avis sur un sujet.
C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des grandes expériences comme la mienne, parce que nous, on était en danger dès la pesée, tu vois. C'est la différence avec les grands champions, tu vois. Toi, t'avais peur d'en mettre ton titre en jeu. Moi, j'avais peur d'aller à la compète. T'imagines l'expérience du danger, là.
Bon. En tout cas, c'était très intéressant de vous entendre là-dessus, évidemment, sur Teddy Riner. Je précise qu'au niveau sportif, il a lancé ce week-end la première édition de la Riner Cup. La Riner Cup, ça se passe à Asnières, en Ile-de-France. Et donc, ça se passe actuellement. Les dernières informations, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Voilà pour du sport, qui concerne aussi Teddy Riner. Ne vous inquiétez pas, la musique de la Ligue des Champions vient de loin. Ah oui,
elle est partie de loin.
Ah, elle est partie de très loin. Merci la régie. Alors c'est le moment pour vivre l'expérience RMC de gagner vos places pour Paris Saint-Germain Aston Villa. Ça va se dérouler mercredi à 21h. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Il est 10h27, vous avez jusqu'à 10h32. Bonne chance à tous. Ça peut vous arriver. Deux personnes au Parc des Princes. Et puis vous venez évidemment avec nous sur RMC. L'expérience RMC, c'est maintenant.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h30 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Fred Le Canu, Fred Weiss, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, on s'en fout pas, j'ai des informations à vous donner, notamment la Champions Cup avec La Rochelle qui va toujours aussi mal. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez et si vous avez envie d'en parler. Et puis à partir de 11h, supporters marseillais, on vous attend au 32-16, surtout si vous allez au Vélodrome ce soir. Le Vélodrome peut-il se retourner contre ses joueurs après la semaine sous haute tension qu'a vécu l'Olympique de Marseille? Évidemment, vous venez nous dire ce que vous en pensez. C'est au 32-16. Alors, mais GG, le tennis serait-il finalement de gauche? Ah ben, on peut se poser cette question, parce que cette semaine, il a beaucoup été question d'une meilleure répartition des richesses. Les 20 meilleurs joueurs et joueuses de la planète ont envoyé une lettre aux 4 tournois du Grand Chelem, dont Roland Garros, évidemment, qui va débuter dans quelques semaines, pour protester contre cette répartition des revenus générés par ces 4 majeurs. L'un des meneurs de la fronde, il s'appelle Casper Ruud, il est 6e mondial, il s'est confié à RMC Sport, c'est son coup de gueule, et c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
I think if you look at the numbers, the Grand Slams, they pay around 15% of their.
Si vous regardez les chiffres, les Grands Chelem reversent environ 15% de leurs revenus aux joueurs via leur prize money. Ce n'est pas assez. Nous avons essayé d'enclencher une discussion avec les Grands Chelem et cela n'a pas été possible. Si vous comparez à d'autres sports majeurs dans le monde, des sports collectifs par exemple, la NFL c'est 50%, le golf c'est environ 30%. Nous les meilleurs joueurs, nous sommes très bien payés et j'en suis conscient. Quand j'ai su ce que pourraient faire les tournois pour plus contribuer, c'est un peu contrariant et ce n'est pas équitable. Sans joueurs, il n'y a pas de tournoi. Et cette contestation, ce n'est pas seulement pour les top joueurs. Pensez à ceux qui se qualifient pour la première fois ou le joueur qui se hisse au troisième tour. Ils méritent mieux, car dans les tournois, il n'y a que de super athlètes.
Whoever qualifies for the first time or reaches the second, third round, that they get, they are great athletes and I think they deserve more as well. So.
Et voilà, Casper Ruud, en gros, arrêtez de vous en mettre plein les poches, les tournois du Grand Chelem, et reversez plus aux joueurs, 15% actuellement, et ils demandent plus, ces joueurs. Ce combat est-il légitime pour vous? Petit judoka, par exemple, voilà. Petit basketteur aussi. Vous n'avez pas bien gagné votre pain avec votre sport. Ce combat est-il légitime, oui ou non, Fred Le Canu?
Bah oui, mais si tu dis que c'est peut-être une dimension de gauche, en tout cas, j'espère que c'est pas une dimension maladroite.
Ok. Oui ou non, David Douillet? C'était la boutade, hein, pour
Oui. Bien sûr. Ouais,
je viens de découvrir que je suis de gauche, donc je suis de gauche.
Alors, je propose d'applaudir David Douillet.
Non, David, tu es gauche.
Il a retourné sa veste.
Tu es gauche, ça n'a rien à voir.
Fred Weiss.
Je suis gauche aussi, ouais.
Ah oui, c'est légitime.
Oui, légitime. Christophe Cessieux.
Oui, parce que j'avais pas entendu la fin de ce que disait Ruud, c'est-à-dire, c'est un combat pas pour lui.
Pour les autres.
Mais pour les petits.
Oui, oui.
Ah, c'est bien.
Bah, c'est de gauche, tennis. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis. C'est Eric Salut en direct de Monte Carlo. Salut Eric.
Salut à tous.
Et vous le savez, la saison sur Terre commence aujourd'hui. C'est pour ça qu'Eric est déjà présent au rendez-vous. Est-ce qu'il y a une ambiance de frondeur là où tu te trouves, mon cher Eric, à Monte Carlo?
Souvent, c'est difficile d'être frondeur dans le cadre enchanteur du Monte Carlo. Non, mais il y a, je le sens, il y a une sorte de révolte qui gronde. Et la prise de parole de Novak Djokovic cet après-midi sera scrutée avec intérêt. Réfléchissons. Après le dépôt de la plainte de la PTPA, vous savez, le syndicat des joueurs, ça ressemble à une deuxième lame qui vise les organisateurs de tournois. Cette fois, ce sont les grands, les quatre grands chelems qu'on accuse, pour parler grossièrement, de se goinfrer sur le dos des joueurs. Les bénéfices dégagés par les quatre majeurs sont colossaux. Et Sacha Zverev, rencontré hier, affiche une détermination sans faille.
On est à combien ? 17% des revenus sont redistribués aux joueurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a encore du boulot sur le sujet. Ce qui serait bien, c'est que les joueurs et les joueuses choisissent un ou deux représentants pour s'asseoir avec les responsables des grands chelems pour essayer de trouver une solution. On n'en est pas à demander 50% comme en NBA ou dans les sports américains. Une redistribution plus juste, ça serait bien. Et je suis sûr qu'on va y arriver ensemble.
Bon, est clair, il veut pas un alignement à l'américaine, mais il exige qu'une réunion ait lieu. Je pense que ça peut se faire à Madrid très prochainement pour parvenir à un accord. Stefanos Tsitsipas a parlé d'une union et on devine que le point de rupture est proche. Les cadors se battent aussi pour que les joueurs situés autour de la 150e, 200e place mondiale puissent regarder sereinement leur compte en banque. Je vais vous donner un exemple très simple. Grégoire Barrère, on le connaît, il est 150e, 157e mondial. Il a été éliminé en début de semaine au Challenger de Barletta en Italie. Il a touché un chèque de 950 euros. Tant dire que s'il est venu avec un coach, il a perdu de l'argent. Pensez-vous que le 150e footballeur, basketteur ou rugbyman soit dans cette situation? Bien sûr que non. Ce bras de fer est aussi destiné à servir les intérêts des galériens, entre guillemets. 20 000 euros pour un battu au premier tour des cahiers d'un grand chelem, ça paraît beaucoup. Mais ça permet à peine de financer une saison si vous avez la chance de jouer les quatre grands chelems. Le 17 avril, lors d'une conférence de presse, les internationaux de France vont divulguer le prize money de l'édition 2025. L'an passé, c'était une somme de 53 millions et 478 000 euros. On devine que la lettre arrivée dans les bureaux de Roland-Garros met une petite pression.
Exactement, une petite pression. Et donc, on attendra en tout cas de voir la répartition des gains proposés par Roland-Garros cette année. Tu as bien raison de le préciser. Reste avec nous, Eric Salio, pour ce débat.
Ah ouais. J'ai une question, Harry. Combien reverse Roland-Garros, par exemple, les prize money totaux de Roland-Garros, c'est combien, tu sais, Harry? Tu as une idée ou non?
Ah bah c'est environ, ouais, 17%. Ouais, c'est ça,
non,
c'est
mais ce en termes de
millions, c'est, ouais, ça. C'est ça. Bah c'est combien? Bah, c'est 60 millions.
53 millions.
53
l'an passé. Donc tout confondu avec les tours à double, les épreuves aussi.
Vous savez combien le Tour de France reverse aux coureurs par an? 2 300 000 euros.
Hors taxe.
Oui, mais c'est différent. Ils ont des salaires,
ils sont payés mensuellement, eux, non?
Eh oui.
Quoi, oui, mais bon, ils récupèrent rien. Les organisateurs.
Mais ça, c'est ASO qui.
C'est ASO qui.
Oui, mais comme le dit, les cyclistes se sont payés par leurs équipes.
Ils sont payés par l'équipe, mais uniquement grâce à l'appui des sponsors.
J'entends.
Parce que l'organisateur, lui, il fait payer les villes de départ et villes arrivées. Ils font payer, évidemment, les droits de télévision et ils reversent 2 300 000 euros. C'est la plus grande course du monde. Donc, il y a l'économie bien différente selon les sports. Hein,
quand même. Oui, mais t'as des sports qui arrivent grâce à ça, grâce à la visibilité apportée par ASO aussi.
Fred Le Canu.
Bah, la grande question, c'est ce que tu soulèves. C'est-à-dire qu'il y a la statue avec le pognon, tu vois, puis t'as le statut aussi des athlètes. Parce que la grande différence dans tous ces sports, c'est que certains sont poussés, sont encadrés par des fédérations, des systèmes et par des salaires aussi. Et là, le tennis, c'est quand même très atypique. Et tu vois, au-delà de ces pourcentages, moi, ce qui me gêne un petit peu derrière, c'est se battre pour l'argent. OK, il n'y a aucun sujet là-dessus. Quand tu vois la différence avec la dimension américaine, les pourcentages et tout ça, on voit qu'on est bien en dessous dans le monde du tennis. Mais c'est aussi la protection autour de l'athlète, sa formation, le développement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la monnaie, quoi. Il n'y a pas que le prize money. Il y a aussi tout ce qui entoure sa capacité à se soigner, à emmener des gens autour de lui. Je trouve que le sujet, il va un petit peu plus loin que uniquement l'argent. Et puis, cette dimension de bras de fer tout de suite, là, avec des procès, enfin, tu vois, c'est déjà tout de suite très engagé dans une violence, mais tu vois, tu sens que c'est pas simple. Moi, je pense que c'est plus le statut de l'athlète plutôt que uniquement la dimension économique.
Après, cet argent, non, mais... l'argent généré par les tournois du Grand Chelem, Eric, là aussi, je parle sous ton contrôle, il sert à quoi? Il est mis dans la poche des dirigeants de la Fédération française ou il est utilisé justement pour promouvoir le tennis en France, pour aider les jeunes joueurs en formation? À quoi il sert tout cet argent généré?
Oui, bien sûr, il est redistribué. C'est le rôle d'une fédération, enfin surtout la fédération française. Il rejaillit. Mais
oui, qui est assis sur un tas d'or quand même aussi. Féminin,
ah ouais, ouais.
Quand tu vois l'état du tennis féminin français, tu dis il rejaillit, mais
ouais,
il
pas, rejaillit, pas assez fort, ouais.
David Douillet.
Non, mais moi je trouve qu'elle est complètement légitime l'action des joueurs. Parce que quand on a une pièce de théâtre, les acteurs de cette pièce doivent être payés à leur juste valeur. Et c'est pas le cas. Ils font tout le spectacle le salaire, les salaires, enfin, on va dire la masse salariale, enfin la masse d'argent redistribué, elle est ridicule au regard de la grandeur du spectacle. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Et la preuve, il y a beaucoup de jeunes qui galèrent. Il y a peut-être des carrières qui se sont arrêtées à cause de ça, parce que les parents étaient pas là, parce qu'ils pouvaient pas suivre. Et ça, c'est en termes d'égalité et de comment dirais-je, de possibilité de grandir. Si t'es un peu mature, un peu tardivement par rapport à d'autres, eh ben tu restes dans les starts du départ, et c'est pas bien du tout. Il faut avancer là-dessus, mais globalement, hein, dans tout le sport en général, chacun a son modèle. On parlait du cyclisme, on peut parler du foot, on peut parler du basket. Globalement, dans les sports pro, je trouve que quand on me dit, par exemple, est-ce que les footballeurs sont pas trop payés, etc., etc., ils sont payés au regard de l'économie qu'ils génèrent. Là, les tennisman, au regard de l'économie qu'ils génèrent, c'est pas juste.
C'est pas juste. Okay. Moi,
j'espère que le combat de Rude est vraiment un combat pour les autres, pas pour l'élite du tennis qui, elle, se gave. Évidemment, c'est normal.
Pour tout le monde.
C'est eux qui font le spectacle. C'est pour eux qu'on paye pour aller voir.
Ils se battent pour les autres, mais ça va leur bénéficier aussi. Hein.
Ouais, parce que Casper Rude, c'est 23 millions de dollars engrangés depuis le début de sa carrière. Donc, je pense pas que ce soit non plus un damné de la terre, si tu veux. Voilà.
Ouais, mais si moi,
s'il se bat pour les gamins qui sont en qualif et qui n'arrivent même pas à se payer un voyage en business quand ils vont à l'autre bout du monde, alors que le lendemain ils ont un tournoi à faire, qui n'arrivent même pas à emmener leur coach avec eux, qui n'arrivent même pas à avoir un masseur qui vient s'occuper d'eux régulièrement. Évidemment que c'est pour cela que l'élite du tennis mondial doit se battre.
Oui, mais encore faut-il que ces joueurs-là soient inscrits dans les tournois du Grand Chelem, parce que les tournois du Grand Chelem,
oui,
c'est réservé à une élite.
Au moins, tu vas juste au mec qui se qualifie.
L'exemple des ligues américaines, et paradoxalement, les ligues américaines, c'est celles qui sont les plus à gauche, justement, celles qui revalorisent justement le plus le travail des joueurs. Et pour ça, il y a eu un syndicat qui est très fort, qui existe depuis 1954 pour la NBA, par exemple, et qui travaille très dur et qui a fait des lockouts. C'est-à-dire que les joueurs et les propriétaires se sont arrêter de jouer, la saison s'est arrêtée. Mais est-ce que les tennismen sont capables de faire ça, de mettre cette pression pour que aligner tout? C'est ça la vraie question.
Eric, est-ce qu'ils sont capables de faire grève? On en parle depuis quelques mois.
Moi, j'ai vu les déclarations d'Alcaraz, je suis pas sûr.
Oui, Alcaraz, il semblait découvrir un peu ce qui se tramait. Non. C'est pour ça que je vais aller à l'interview de Djokovic, parce qu'on sait que c'est un garçon, il a une âme de meneur, de leader. Donc sa prise de parole va être très très attendue cet après-midi auprès des journalistes qui sont présents ici à Monte Carlo. Mais effectivement, l'issue ultime, c'est la grève. Mais peuvent-ils se permettre une grève? Là, on a eu ça dans le hockey, il me semble. Oui, mais je pense qu'il y aura une réunion à Madrid. Il y aura une réunion à Madrid. Il faut que les choses avancent. Sinon, effectivement, là, ça peut faire vilain.
Les choses pourront avancer que si les costauds, les poids lourds, font barrage.
Et ce qui est assez inédit, c'est pour ça qu'on en parle, hein, oui, parce qu'une lettre des 20 meilleurs joueurs du monde, c'est quand même suffisamment rare.
Et je suis pas sûr que ça change, ça change la destinée quand même des joueurs. Parce que, tu vois, là, on parle d'amélioration de conditions de travail. Ils vont mieux gagner leur vie. Par contre, des athlètes qui sont en difficulté sur les grands chelems, ça fait quand même longtemps que certains compétiteurs n'ont pas réussi à briller. Je suis pas sûr que ça change fondamentalement la donne. Ils vont mieux gagner leur vie, mais je suis pas sûr que ça les rende meilleurs sportivement.
Oui, et puis une dernière observation, parce que j'ai envie de parler de Richard Gasquet avec toi, hein, qui va jouer aujourd'hui, Eric. Je crois, dans mon souvenir, que l'année dernière, les prize money n'ont jamais été aussi forts pour les joueurs et les joueuses, même quand ils perdaient au premier tour. C'était quoi? C'était 50 ou 60 000 euros déjà s'ils perdaient au premier tour d'un grand chelem.
Oh, c'est même un peu plus.
On était autour des 70-75 000 euros. Ce qui a l'air comme ça, pas déconnant pour un tout à chacun, c'est ça que je veux dire.
Et là, si tu perds au premier tour à Monte Carlo, tu prends 24 500 euros. Donc c'est bien.
Bon. Ouais, mais Fred Le Canu, je suis pas d'accord avec toi.
T'as le droit, David. T'es à distance.
Rapidement, non, les copains, s'il vous plaît.
Je suis pas d'accord parce que si t'as un peu plus d'argent, t'as plus d'argent pour t'entourer, pour avoir un meilleur soigneur, pour avoir un meilleur kiné, pour avoir un meilleur entraîneur, pour voyager dans de meilleures conditions, etc. Et tout ça concourt à la performance. C'est évident. Donc si tu galères, si tu vas à tes matchs en RER, c'est pas pareil que lorsque tu peux circuler correctement. Enfin, t'as des tu récupères mieux, etc., etc. Enfin, vraiment, ça, ils ont un tel rythme au niveau de leur calendrier que s'ils ont de meilleures conditions pour préparer leur compétition, ça va avoir une influence sur leur performance, c'est clair.
On suivra ce dossier, en tout cas, avec toi, Eric Salio, et puis le sportif, hein, notamment aujourd'hui, Richard Gasquet, qui dispute cette année son dernier Monte-Carlo. Ça sera peut-être son dernier match.
Ouais, il faut se rendre compte qu'il y a 23 ans, il faisait les qualifs de Monte-Carlo, donc ça ne rajeunit pas. Et hier, on a eu la chance de le croiser. On a le sentiment qu'il est content que ça s'arrête parce que parfois, le matin au réveil, c'est compliqué pour Richard.
J'étais mieux à 16 ans quand même. Ouais, je vais rester là-dessus. J'étais quand même. Quand je me réveillais le matin, j'étais quand même un peu mieux, quoi. Là, j'ai mis quelques pas avant de marcher. Sincèrement, quand même, quoi. Ouais, c'est plus dur. Ouais, le lever est plus compliqué qu'en 2002. Ouais, ça, c'est quand même un gros souci. Et je te dis, ça fait plaisir d'arrêter par rapport à ça. Parce que les premiers pas hors du lit sont pas si faciles, quoi. Qu'à 16 ans, quand même, ça coulissait un peu mieux, en tout cas, sur les jambes.
Non, on l'adore, Richard Gasquet. Ça va être un beau moment, hein, cet après-midi. On espère qu'il passe, mais en quelques secondes, il a une chance ou pas?
Bah, il joue Matteo Arnaldi. Bon, voilà, ça va être compliqué. C'est un mec qui est dans le top 40. Mais bon, il y a la magie du center court de Monte Carlo. Ça peut avoir un effet bénéfique sur Richie, mais effectivement, c'est peut-être la DR. Faut amener les Kleenex.
Bon, en tout cas, c'est à suivre sur RMC, hein, le match de Richard Gasquet,
oui,
cet après-midi.
Oui, ça va tomber dans Stephen Brunch.
Exactement, c'est à partir de 13h. Merci beaucoup, Eric Salio, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour le On s'en fout pas, et notamment La Rochelle en crise, mais aussi le Tour des Flandres. On a une petite surprise, d'ailleurs, sur ce Tour des Flandres. Les GG ne sont pas au courant. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Fred Weiss, David Douillet, Fred Le Canu ce matin à partir de 11h. Supporters marseillais, on vous attend au 32-16, surtout si vous allez au stade ce soir. Marseille-Toulouse, le Vélodrome va-t-il se retourner contre ses joueurs? On se posera la question et vous entendrez Roberto De Zerbi en conférence de presse. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est donc ce duel fantastique entre Pogacar et Van Der Poel sur le Tour des Flandres. Aujourd'hui, on s'en fout pas. Christophe, j'ose te poser la question.
La pose même pas. Évidemment qu'on s'en fout pas. C'est magique.
Tout.
C'est magique.
Fred Weiss.
C'est l'événement du jour.
Je m'en fous pas et j'ai hâte d'entendre Christophe.
Ok, David Le Canu. David Douillet, j'ai fait un
morceau. Oh,
maman, si tu écoutes cette émission, il était temps de le dire à tout le monde.
David Douillet.
Prends tes cachets, j'y sais.
Oui, pardon.
Je vois même pas pourquoi tu poses la question.
Pardon, je suis désolé. Voilà. Tu t'en fous. Fred Le Canu.
Non.
Bah, je m'en fous. Voilà.
Ok.
Pour laisser Christophe raconter l'histoire.
Oh, alors, vous le savez, c'est le deuxième acte du duel magnifique entre Pogacar et Van Der Poel aujourd'hui. Le troisième, ce sera dimanche prochain lors de Paris-Roubaix. Je vous parlais d'une petite surprise ce matin. Il est en direct de sa voiture de course, de la Groupama FDJ. Il est à côté de Bruges. C'est Marc Madiot qui est avec nous. Salut Marc.
Salut les amis.
Salut,
bon, comment ça se passe, ce départ et ce début de course, hein? Kevin Morand suit cette course pour nous actuellement. Il y a beaucoup d'attaques, hein, comme on pouvait le pressentir.
Beaucoup d'attaques, mais pour l'instant, rien ne se dessine, rien ne s'échappe. Donc, on a une course assez rapide, mais il n'y a pas d'incident, pas d'accident. Tout est calme. La route est belle, il y a beaucoup de public et on rentre progressivement dans le sujet du jour.
Alors, il faut savoir que ça part de Bruges, donc c'est quand même très à l'ouest, et ça va aller vers les Flandres. Là, on va trouver les monts, là, on va trouver les pavés. Et comme tu le disais, Marc, ensuite, ce sera vraiment sur une toute petite circonférence, hein, les monts, les Paterberg, Vieux-Coirmont et tout ça. Ça se joue dans un mouchoir de poche, quasiment. Hein.
Ah oui, c'est dans un rayon d'une petite cinquantaine de kilomètres. Et un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et on revient au point de départ et on recommence. Donc c'est assez particulier. Ça va être dans une ambiance extraordinaire parce que depuis le départ, on voit beaucoup de public sur le bord de la route. Alors certaines années, on dit qu'il y a près d'un million, un million de spectateurs sur le bas-côté de la route. Ça fait beaucoup.
Voilà. Bon, Marc Madouas,
1 million de spectateurs, 1 million de spectateurs sur une course.
Alors, bah justement,
ce que ça représente.
Alors oui, je me rends compte totalement de ce que ça représente parce que Marc, tu fais cette émission avec nous depuis 5 ans, et puis tu le sais, le dimanche, le samedi, on est écouté par 1 million de téléspectateurs. Nous aussi, on bricole, hein, on fait notre petite émission. Madouas, t'inquiète, UAE, ils écoutent pas, la Jumbo, c'est pareil. Madouas, il attaque quand?
Madouas, il va essayer d'être avec les meilleurs le plus longtemps possible. Ici, une petite ouverture, on essaiera d'apprendre. Mais de toute façon, on sait que la course va se jouer autour de deux coureurs hors normes, Pogacar, Van Der Poel, et c'est eux qui ont les clés de la course. Leur équipe également. Je pense qu'ils n'ont pas trop envie de laisser partir un gros coup de 10-15 coureurs dans la première moitié de course pour ne pas avoir à rouler derrière. Ils vont essayer de contrôler puis durcir la course progressivement. Enfin, si je suis Pogacar, c'est ce que je ferais. Je durcirais la course un maximum pour mettre dans les cordes Van Der Poel et son équipe, l'user, le laminer un petit peu pour qu'il puisse être plus malléable dans la dernière partie de course.
Juste, tu les as vus, les deux monstres, ce matin, ils étaient comment?
Alors, j'ai aperçu Van Der Poel, puisque mon bus était garé auprès du sien. C'est la rockstar, hein. Il y avait, 100 ou 200 personnes avec les appareils photo autour du bus. Quand il est sorti, il y a eu une bronca. Quand il est parti pour la signature également, c'est la méga star ici.
C'est la méga star, mais il est hollandais.
Il est hollandais. En Belgique.
Ouais, il
fait tout l'hiver dans les crosses. Lui, Van Aert, c'est des méga stars.
Les Hollandais, ils sont partout. Ils sont à l'Alpe d'Huez. Ils sont quand on va dans le moindre club de vacances avec les tongs et les chaussettes. Ils sont partout.
Ouais, Maurice, t'en vois moins quand même. Là où tu vas en vacances, il y en a moins dans les Hollandais. Hein?
C'est possible.
Marc, un petit pronostic entre Pogacar et Van Der Poel.
Si la course est âpre et constante et usante, je mettrai un petit billet tout petit sur Pogacar.
Ok, sur Pogacar. Merci beaucoup, Marc. Merci d'avoir eu la gentillesse d'être avec nous. T'es en plein boulot quand même. Hein. Bah, nous aussi, mais toi, là, t'es en plein boulot.
Je suis voiture 2, donc c'est tranquille. J'ai le temps de regarder.
On te relègue maintenant en voiture 2. Non, mais attends, dis à ton équipe que tu fais les grandes gueules du sport.
C'est
hein,
toi
c'est la voiture 1 là, qui passe sur Paris.
Il y avait un virage à droite, Marc.
Il est dans le décor.
Il y a même la voiture 1 qui a coupé la transmission. Bon, merci Marc et à bientôt et belle course à toi évidemment.
Salut,
et à toute
amis,
ton équipe. La Groupama FDJ, on t'embrasse. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le 2-3 hier pour les clubs français en Champions Cup. On s'en fout pas. Fred Le Canu.
On s'en fout.
David,
je m'en fous de tout, moi, ce matin.
David.
Comme Fred, je m'en fous.
Ok, Christophe.
Je ne m'en fous pas du tout. Okay. Mais je vais vous parler d'un truc particulier, là, sur la Champions Cup. J'ai été très agacé, voire révolté par ce qui s'est passé.
Ah, très bien. Alors là, très bon teasing.
Franchement, ça a l'air super intéressant, mais je m'en fous complètement.
Alors, déjà, ce 2-3, vous dire que Toulon et Castres se sont qualifiés pour les quarts de finale de cette Champions Cup. Le RCT qui a renversé les Saracens avec un match incroyable, 16 essais au total, il y a eu 72 à 42. Le Castres Olympique a renversé sur le buzzer Trévise 39 à 37. Mais c'est vrai que l'une des informations, c'est l'immense déception pour La Rochelle qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Les Rochelais sont déjà éliminés de la compétition, battus à domicile par le Munster 25 à 24. Des Rochelais incapables de gagner depuis 3 mois, 9 matchs sans victoire. On écoute Ronan O'Gara.
Il y a maintenant focus sur sauver le club pour la saison prochaine. Ça, c'est leur ultimate boot maintenant parce que aujourd'hui, c'est très décevant, mais je dois féliciter Monster. J'ai déjà envoyé le planning pour jouer à Bordeaux la semaine prochaine. Le plan est dans la poubelle pour le moment. Il doit repenser comment on peut sauver le club maintenant. On a complètement oublié la sensation de gagner. Ça, c'est un grand souci. C'est un different challenge maintenant de sauver le club que de gagner des boucliers.
Quelle descente aux enfers de La Rochelle. Il y a Sylvain qui était au stade hier qui nous appelle justement. Mais juste avant, Christophe, tu voulais dire quoi?
Non, moi j'ai été scandalisé par l'attitude des Saracens. Ce club qui a été l'un des plus grands clubs européens, sacré à 3 reprises champion d'Europe, qui a connu de gros problèmes et qui là a décidé sciemment d'envoyer, de faire l'impasse sur un 8e de finale de Champions Cup. C'est un manque de respect total à cette compétition. Ils ont décidé de pas envoyer des internationaux.
Ils ont bien failli gagner. menaient à la pause face à Toulon.
Enfin derrière, ils ont pris 70, hein, si tu veux. Ils ont explosé en vol. Ils ont été surpris. Les Toulonnais étaient un peu surpris parce que du coup, on leur envoyait l'équipe bis. Mais c'est pas normal. Autant que tu puisses faire tourner dans une saison de top 14, dans un championnat,
mais
pas dans un match couperet. C'est scandaleux. Et je pense que ça va pas renforcer l'aura de cette Coupe d'Europe qui déjà est bien entamée. Donc si les clubs se mettent à faire ça, où on va, quoi. Ça sert plus à rien.
Bon, revenons sur La Rochelle avec Sylvain qui a composé le 32-16. Salut Sylvain.
Salut l'équipe.
Bon, comment tu te sens là après cette énième défaite de La Rochelle? On s'attendait à ce que justement la Champions Cup donne un petit peu d'allant, un petit peu de vie à ce club, et finalement rien.
Une belle première mi-temps, on a vu des joueurs qui n'ont pas lâché, mais il y en a quelques-uns, on va pas dire qu'à 30-35 ans on commence à être vieux, mais on voit que depuis trois grosses saisons, entre quelques joueurs qui ont la trentaine, un staff qui sait pas où aller, je pense que c'est pour certains ça peut être la dernière saison, mais vu les tribunes, c'était vraiment dur, c'était vraiment très très dur. Mais je pense qu'à la fin de la saison, il faudra que le président prenne une décision, parce qu'on peut pas garder un staff comme ça qui a plus aucun ressort au sein des joueurs pour essayer de retrouver la victoire, parce que derrière, ça va revenir très vite avec le Racing et Perpignan. Devant, ça va avancer un petit peu plus vite parce qu'il reste plus que 6 journées. Donc attention, quoi. Attention,
moi, je pense que la Rochelle va pas se qualifier. Je suis persuadé que La Rochelle, ils sont dans une telle dynamique, ils vont pas se qualifier pour les playoffs. Et il y a aussi peut-être la faute de certains dirigeants, la faute des recruteurs qui n'ont pas réussi à prolonger cette équipe. Ils sont restés sur leur laurier des deux coupes d'Europe remportées, de ces finales disputées, et ils n'ont pas su préparer l'avenir. Aujourd'hui, effectivement, il y en a certains qui sont en bout de piste, quoi.
Merci Sylvain d'avoir composé le 32-16 comme ça dans un zapping. C'est pas courant, mais t'avais envie de parler de ton club, La Rochelle, évidemment. On espère beaucoup de bien au Rochelais, mais c'est vrai que là, ça paraît mal embarqué. Il est 10h57, on se retrouve dans quelques instants. L'OM, le Vélodrome, va-t-il se retourner contre ses joueurs? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.